fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Pour ouvrir la saison côté art plastique, nous allons parler aujourd'hui d'Eva Eppli. Eva Eppli est une artiste née en 1925 à Zofingen en Suisse et morte en 2015 à Honfleur en France. Eva Eppli est peintre et sculptrice. Elle pratique la peinture, la gravure et la sculpture tout d'abord à l'école d'art des Kunstgewerbeschule à Bâle. Elle découvre à l'âge de 16 ans l'existence du camp de la mort en lisant Die Moorsoldat, les soldats de la mort de 1935 de Wolfgang Langhoff. Cette lecture marquera durablement son œuvre. Elle se marie en 1951 avec le sculpteur Jean Tinguely, mais son indépendance à l'égard de son époux la fait dire « J'avais peur que son art m'étouffe. C'est pourquoi je ne voulais voir aucune de ses œuvres. Je ne voulais pas non plus me laisser influencer par lui. » Eva Eppli défend le caractère autodidacte et totalement individuel de son art, s'exprime peu, et sera de ce fait reconnue tardivement et sporadiquement par les institutions de son époque. Elle exercera toutefois une énorme influence sur le travail de Niki Saint-Phalle, la seconde femme de Jean Tinguely. En 1952, Eva Eppli s'installe à Paris avec son mari et fabrique des marionnettes qu'elles vont dans les magasins de jouets pour payer leur loyer. Ils vivent misérablement, aidés par Daniel Spury, et ils l'aménagent dans un modeste atelier de la fameuse impasse Ronsin. Entre 1953 et 1957, c'est elle qui subvient aux besoins du ménage. Jean Tinguely lui reconnaîtra toujours ce rôle de guide et de soutien, l'ayant auparavant encouragé à devenir artiste, puis passé du fusain à la peinture à l'huile. En 1960, ils se séparent et elle se consacre à la peinture dans des larges toiles où crânes et personnages entassés, squelettiques, définissent des compositions à la limite de l'abstraction. Ce sont des danses macabres contemporaines où les représentations de la mort et le pessimisme dominent. Progressivement, elle se tourne vers une œuvre sculpturale, des personnages confectionnés pour la plupart en tissu cousu, muet et solitaire, comme saisis de douleur et d'effrayeur. Ils sont monochromes, au genre indéfini, ils ont le même visage blafard, le même corps squelettique et les bras bâillants, les jambes rachitiques. L'artiste les appelle elle-même les Maccabées. Certains groupes de ces mannequins textiles sont aujourd'hui considérés comme ses chefs-d'œuvre. La table des 67 par exemple, ou encore groupe de 13 de 1968. Il s'agit toujours d'évoquer frontalement le sort des grands victimes du siècle, les déportés, les victimes des tortures. Le regard est noir et sans aucune échappatoire. Ainsi qu'elle le fait remarquer à une critique qui avait, selon elle, mal interprété la table. « Vous avez tort de supposer que je mis la mort au centre de la table pour envoyer un message de désespoir. Au contraire, mon travail était un commentaire du fait que les gens se sentent abandonnés, qu'ils sont consommés par la peur de mourir, qu'ils refusent le don de la vie. J'espère qu'à travers leur expression, on voit l'isolement de ces figures emprisonnées de leur monde négatif. » À partir du milieu des années 70, les mannequins en tissu sont remplacés par des bronzes, des figures individuelles et des cycles des têtes monumentales en velours, coton et cuir, rembourrés de capoc, dont la plupart sont consacrés au thème de l'astrologie. Les planètes, des 74 à 76, précèdent le zodiaque, des 79 à 80. En 1991, Eva Eppli collabore de nouveau avec Tinguely et cette série d'œuvres exposée en 2002 au musée d'Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie. Ce travail en commun ainsi que les relations d'Eva Eppli avec les artistes majeurs de son temps sont montrées également dans ses livres de vie, une autobiographie sans mots qu'elle tient pendant 50 ans, de 1954 à 2002. Elle y collectionne lettres, manuscrits, dessins, graphiques, photographies envoyées par ses amis et reproductions de ses œuvres. Vie et création artistique s'entrelacent pour former une entité indivisible, d'autant plus unique et utile que Eva Epley s'est toujours refusée à commenter ses propres créations. Ce journal de bord en images est aussi un tableau de l'Europe d'après-guerre. La rétrospective qui lui est consacrée à Bonn en 1994 est suivie par celle de Guardian of the Zodiac, Omaha, Nebraska, puis le musée d'Angli à Bâle en 2006. Plus récemment, c'est le Centre Pompidou Metz qui a consacré une exposition individuelle à Eva Epley, nommée le Musée Sentimental d'Eva Epley. On pouvait y voir, entre autres, les nombreuses cartes de visite où elle se présente en consultante de Woozy et Woozy Woozy, un philosophe, un professeur de vie ou encore un acrobate entre ciel et terre, révélant l'esprit singulier de cet artiste encore méconnu. Après avoir lu un parti des extraits d'une biographie écrite par Camille Morino, éditée aux éditions de Femmes en 2013, je voudrais tout d'abord partager un poème que Eva Epley a écrit, puis allons à la rencontre d'Éloi Boucher, le directeur de la galerie Sans Titre, où ont été exposées quelques œuvres d'Eva Epley en ce début d'automne 2024. Il s'agit d'une exposition nommée « Tomber vers le haut », qui figure quelques travaux d'Eva Epley et de Xiliang Jin. La galerie Sans Titre présente l'exposition comme un dialogue entre l'artiste historique suisse et ce jeune peintre chinois. Le poème que je vais lire maintenant se trouvait sur le communiqué de l'exposition « Tomber vers le haut ». Il s'agit d'un poème d'Eva Epley qu'elle a nommé « Le Sentier », édité aux éditions du Centre culturel suisse à Paris en 1989. « De mon rêve, nous marchions ensemble dans un paysage solitaire. La couleur du sentier était la couleur de tes pensées. Je t'ai posé une question, mais tu n'as pas répondu. Tu regardais à l'intérieur de toi-même. Tu avais l'air confuse et craintif. Le crépuscule avançait. Tu marchais maintenant les yeux fermés. Je t'ai prise par la main pour te guider à travers les ténèbres. Enfin, longtemps après, la nuit se dissipa, une pâle lueur grise couvrit le ciel. Je me suis retournée, mais tu n'étais plus là. Le sentier était devenu très étroit et avait pris des couleurs d'un rêve pénible. Il menait à travers un paysage désert. Lentement, je suivis le sentier, sachant que je ne reviendrai jamais plus. Bonjour Éloi, merci de me recevoir de votre galerie. À l'instant, j'ai demandé est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vient et vous m'aviez répondu...
On a énormément de passages, oui, de par le fait qu'on est inscrit dans la map du surréalisme. C'est une initiative du Centre Pompidou, de l'association André Breton et du comité professionnel des galeries d'art parisiennes qui ont lancé un appel à candidature il y a quelques mois pour les galeries ayant une exposition qui pouvait fitter avec le thème général du surréalisme, la saison, le centenaire que le Centre Pompidou a initié cette année. Et notre exposition a beaucoup de visibilité grâce à ça, et aussi le fait que nous montrons Eva Epley, qui est une artiste suisse historique décédée en 2015, qui a très peu été connue de son vivant, même encore maintenant, elle est par rapport à la carrière qu'elle a eue et l'influence sur d'autres artistes, c'est assez rare de voir son travail exposé. Donc là, on a aussi affaire à des gens qui l'ont côtoyée plus jeune, qui sont étonnés de la voir dans une jeune galerie parisienne maintenant, des gens qui l'ont pu être de sa famille ou des proches. Donc voilà, c'est plutôt une bonne réussite. Ouais. Alors l'idée de cette exposition, c'était de créer un dialogue comme on fait habituellement. Enfin, c'est quelque chose d'assez particulier pour la galerie, c'est de créer des dialogues entre des très jeunes artistes, des artistes émergents et des figures plutôt historiques. On a souvent ce rapport-là avec notre programmation. Ici, l'idée, c'était de concevoir un duo entre le jeune peintre chinois Xiliang Jin, qui est basé à Guangzhou en Chine, qui a étudié à la Royal College à Londres en 2022, et suite au Covid, il a dû retourner s'installer en Chine. Et c'est un artiste qu'on suit depuis plusieurs années. On a déjà fait une exposition avec lui à Vienne il y a 2 ans, dans un groupe show chez Pina. L'idée est venue au fur et à mesure, parce qu'on travaillait sur plusieurs artistes en même temps, enfin en même temps sur des recherches sur Eva et sur Gillian. Et l'idée de créer un dialogue entre eux est venue assez spontanément, de par leur pratique qui, malgré leur génération, coïncide assez bien et des thématiques sont assez similaires, une thématique autour du rêve, autour du corps dans un paysage un peu fantasmé. Et l'association des deux marche assez bien visuellement, beaucoup de personnes ont pensé que c'était un seul ou une seule même artiste. Et le dialogue de Gillian est avec Eva Epli, comme je le disais, qui était une artiste historique suisse, née en 1925, décédée en 2015 à Honfleur en France. Eva Epli a toute sa vie été ancrée dans une génération d'artistes assez importants, comme notamment Daniel Spoerry, avec qui ils avaient vraiment une relation de meilleure amie. Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely, avec qui elle était mariée dans les années 50-60. Avant Niki de Saint-Phal, c'est même elle qui les a présentés. Et Niki de Saint-Phal rapporte dans certains écrits que Eva l'a vraiment poussé à produire. Et c'est vraiment elle qui l'a libéré et qui lui a donné la volonté en fait, d'assumer son travail. Donc Eva était vraiment un élément déclencheur dans la pratique de beaucoup d'artistes de sa génération. Elle a toujours voulu rester un peu à l'écart. Elle n'a jamais vraiment voulu être sur le devant de la scène. Elle n'a pas eu énormément d'expositions de son vivant, mais a quand même eu un soutien assez conséquent, parce qu'elle a collaboré toute sa vie avec le galeriste parisien Sammy Kinch. En 1976, Alexandre Yolas lui a dédié une grande exposition personnelle dans sa galerie à Paris. Donc c'est quand même quelqu'un qui est connu d'un certain public, mais ça reste une pratique assez mystérieuse. En 2022, Chiara Parisi lui a dédié une grande rétrospective au Centre Pompidou de Metz, intitulée « Le musée sentimental ». Et suite à ça, on n'a pas vraiment retrouvé son travaille dans des espaces en France ou des galeries. Donc l'idée c'était de la remontrer aussi, puisque le Centre Pompidou a une des installations les plus majeures de son travail dans leur collection. Donc le dialogue marchait assez bien justement avec cette idée du surréalisme.
Est-ce qu'on peut faire un petit tour?
Oui. Alors on expose 3 sculptures de Eva et une dizaine de tableaux de Gillian. Les sculptures d'Eva sont comme des personnages dans l'exposition. C'est vraiment des marionnettes, ce qu'elle appelait des figurines, réalisées à partir de capoc, une fibre textile qui servait pour du mobilier, du rembourrage de canapés ou d'autres, qu'elle vient coudre avec une certaine délicatesse pour faire apparaître les éléments du visage, la bouche, le nez, les yeux, mais aussi les mains, ensuite qui sont très présentes. Et le reste est composé en général d'habits qu'elle venait dessiner aussi, que ce soit en dentelle, en velours ou d'autres textiles. Et ces personnages sont très inspirés en fait d'elle, par son éducation. Elle a grandi en Suisse et ses parents l'ont envoyée dans ce bâtiment assez important en Suisse, le Gotenaum, qui a une architecture assez incroyable, qui est à quelques kilomètres de Bâle. Et c'est toute une éducation et une manière de penser qui a été initiée par Rudolf Steiner, très axée sur l'épanouissement par le savoir-faire, par l'étude de la psyché humaine, de l'astrologie. Et c'est vraiment des thèmes qui ont aidé Eva à se créer en tant que personne, s'épanouir en tant qu'artiste. Dès le plus jeune âge, elle a commencé là-bas, dans cet institut, à créer des poupées qui ont été aussi un moyen pour elle de gagner sa vie tout au long de sa carrière. Qui ne sont pas similaires aux œuvres qu'elle faisait à proprement parler, mais qui étaient quelque chose de redondant, enfin vraiment quelque chose un outil vraiment pratique et manuel qu'elle a fait toute sa vie. Et ensuite, en fait, de par certains traumatismes qu'elle a connus plus jeune, ses parents en Suisse réfugiés des Juifs déportés dans leur maison en Suisse, elle a eu tout ce traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, de la propagation du nazisme et de ces événements terribles qui l'ont influencé après à créer ces figurines qui sont à la fois pour elle, enfin même pour le public, des figurines à la fois effrayantes, mais quand on s'approche et qu'on analyse vraiment ces personnages, ils ont un caractère aussi assez burlesque et assez drôle en soi, parce que ce sont des sortes de présences avec des visages assez durs, mais qui témoignent aussi d'une certaine sérénité. Et c'est des personnages qui ont suivi vraiment Eva toute sa vie. En fait, toute sa vie, elle a vécu avec dans sa maison, que ce soit à Neuilly-sur-Seine ou à Paris, ou à la fin de sa vie à Honfleur. Il y a beaucoup de photos d'archives où on la voit prendre le thé avec, être allongée dans des transats avec, vraiment dîner avec. Il faisait partie de son quotidien. C'était comme ses compagnons. Et toutes les figurines sont nommées par un nom qui est propre à un membre de sa famille ou une proche d'Eva à l'époque. Et vers la fin de sa vie, Eva a énormément jeté d'œuvres. Je pense pour des raisons personnelles où elle voulait peut-être limiter la diffusion de son travail ou essayer de préserver son œuvre. Et la plupart des figurines qui sont vraiment ses pièces majeures de son travail sont soit dans des très très grosses collections, Moderna Musette, au Centre Pompidou, au CNAP ici aussi à Paris, au Musée Tinguely à Bâle, ou chez des particuliers qu'elle a offert en fait à des proches tout au long de sa vie.
Quand on va un peu plus loin, on voit une main blanche, alors que la sculpture est plutôt sombre. Le personnage est noir. On voit deux mains squelettiques noires qui sortent de cette robe en marron foncé. La poupée, elle est assez maigre. Elle a les yeux, on dirait, fermés. Mais elle sourit, elle est assez sereine.
Oui. C'est les expressions du visage, en général, des figurines d'Eva sont inspirées de toutes ses recherches autour de l'astrologie. Et des éléments naturels, en fait, elle assimilait chaque tête et chaque expression du visage à un élément, la terre, l'eau, ou alors une planète, ou un signe astrologique. Donc en fait, selon l'attitude du visage, on pouvait en fait assimiler le caractère d'une personne. Et c'est notamment une valeur que Rudolf Steiner a défendue dans l'éducation, parce qu'apparemment, dès qu'un enfant rentrait dans cette école, la Hogotenaum, un professeur pouvait assimiler directement à l'enfant l'élément qui, selon son caractère et son attitude, il lui a attribué directement un élément. Et c'est ce qu'elle a fait toute sa vie dans les visages de ses figurines, mais aussi dans plein de séries de bronze, de têtes en bronze qu'elle a fait toute sa vie, qui sont notamment exposées, qu'on peut voir en Toscane, dans le jardin de Daniel Sporri, en Italie.
Elles sont de quelle taille, ces têtes ?
Taille humaine. Enfin, c'est vraiment des... D'accord. Elles sont sur des socles. Il y a vraiment la taille humaine, oui.
Il ressemble à ça ?
Oui.
Pas plus expressif aussi des fois ?
Il y en a beaucoup plus expressifs, oui. Il y a des formes de cris parfois, des visages qui ont très peur. Enfin, il y a beaucoup d'expressions différentes. Mais c'est surtout soit un caractère de visage très paisible. Il n'y a jamais vraiment de caractère heureux vraiment dans les visages d'Eva. Il y a toujours aussi ce rapport très lié à la, à son vécu et puis à des choses assez traumatisantes qu'elle a eues toute sa vie. Et du coup, je pense que c'est ce qu'elle essayait de dépeindre dans ses visages, d'avoir des visages assez durs qui témoignent de ce qu'elle a connu dans son siècle. Mmh.
Donc comme des vécus et en même temps des types différentes.
Oui, voilà.
Et quand on continue, alors il y a une autre sculpture.
Oui, un autre personnage qui s'appelle Frieda, qui elle date de 1965 et qui est un peu plus, qui est assez différente, qui contraste assez avec la première sculpture de la première salle. Celle de la première salle est chauve, noire et assez dure, alors que l'autre, celle-ci, Frieda, elle a l'air beaucoup plus joviale, on va dire, enfin, dans le sens où elle joue avec ses cheveux, mais toujours avec, comme dans toutes les sculptures d'Eva, avec un caractère très étrange dans le regard aussi, où on a l'impression qu'elle fixe le visiteur. Et elle doit faire être en lien avec une personne que Eva a connue, certainement. Parce qu'il y a ses cheveux aussi en laine, la robe aussi qui est un peu plus dessinée.
Mais surtout le visage, et nous regarde, hein, les yeux sont ouverts, et on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui a posé comme modèle pour le faire.
Hein. Oui, aussi.
Effectivement, cette attitude très... particulière, enfin, c'est vraiment une attitude de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui tient ses cheveux d'une certaine façon. C'est assez réaliste.
Ouais.
Merci beaucoup, Éloi.
Avec plaisir, merci à vous.
Grammaire fantôme.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvel invité.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.